RCF. Depuis 2 ans, le pape François a engagé l'Église universelle dans une démarche de réflexion pour une Église synodale, plus fraternelle et plus missionnaire, avec les différents ministères d'évêques, de prêtres et de diacres, et aussi les différentes fonctions et charismes des ministres ordonnés et des laïcs. Dans cette émission, une fois pour tous, nous allons prendre un peu de hauteur sur toutes ces réalités. Avec le père Sylvain Brison, il est professeur de théologie dogmatique à la Cato de Paris, et il commence par répondre à la grande question « Pourquoi l'Église ?» Pourquoi, en 2 mots, Sylvain Brison ?
L'Église, elle est convoquée par Dieu pour être dans le monde la continuation de la mission de Jésus, et pour pouvoir conduire l'humanité tout entière vers le royaume des cieux et dans la vie avec Dieu. Donc elle est au service de cette annonce de l'Évangile pour le salut de tous les hommes.
Dans la définition que vous donneriez, il y a 3 mots. Ce qui croit, ce qui espère, ce qui aime. Est-ce que vous voulez, à la suite de Jésus-Christ, est-ce que vous voulez expliquer pourquoi c'est important de tenir ce triptyque?
Oui, souvent quand on interroge les chrétiens à la sortie de la messe pour savoir qui est membre de l'Église, la première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais l'Évangile et les actes des apôtres nous rappellent qu'on ne peut pas simplement avoir foi en Jésus-Christ, il faut aussi espérer dans le royaume qu'il annonce et aimer comme lui a aimé. Et donc c'est dans l'articulation de ces 3 pôles, la foi, l'espérance et la charité, que se déploie la vie chrétienne. Si on se limite uniquement au point de vue de la foi, on va vite faire un rapport avec la foi et la mise en pratique. Donc on va regarder des croyants pratiquants ou des croyants non pratiquants, et on va concentrer notre regard sur une toute petite portion des chrétiens, de ceux qui se mettent à la suite du Christ, et qui peuvent, même s'ils ne pratiquent pas de la même manière que les autres, être vraiment dans la sequela Christi, dans cette suite de Jésus-Christ, dans une prière personnelle ou communautaire, dans l'espérance qu'ils ont d'un monde meilleur et du royaume à venir, ou dans la mise en œuvre de l'Évangile auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Donc du coup, c'est bien dans l'articulation de ces 3 pôle de la vie chrétienne que se situe la vision des membres de l'Église, et non pas uniquement dans le pôle de celui qui croit et où ça s'arrête là.
Et donc, vous dites aussi que c'est important de ne pas oublier le pôle de l'espérance. Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi ?
Oui, le pôle de l'espérance est important parce que dans la manière dont nous vivons l'Église depuis plusieurs décennies déjà, on voit bien ce qu'est le pôle de la foi, parce qu'on croit et on tient à ce que l'on croit. Mais si on ne tient que ce pôle-là, ben on pourrait devenir même quelque chose de sectaire, parce que fermé sur notre propre croyance en excluant les autres. Le pôle de la charité est un pôle que nous avons beaucoup développé, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas vivre dans le monde si on n'aime pas. Mais si on se concentre d'une manière exclusive sur la charité, ben l'Église pourrait devenir une forme d'ONG comme les autres. Ce qui relie la foi et la charité, c'est justement le pôle de l'espérance qui nous permet de tenir la foi et la charité en tension vers ce royaume qui vient. Et c'est sans doute dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui, la vertu qui est sans doute la moins évidente, parce que dans la violence des crises que nous devons affronter, qu'elles soient des crises mondiales comme la crise énergétique ou de la crise de l'écologie, ou des crises plus internes comme le cléricalisme ou les abus, on est plutôt en passe de se dire « mais jamais nous n'y arriverons et nous ne savons pas comment faire ». Or, se rappeler que le royaume vient et que le Seigneur est au-devant de nous et nous appelle à vivre ce royaume est une manière aussi de tenir cette foi et cet amour ensemble dans une espérance commune.
Donc, vous l'avez un peu évoqué, ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête la société dans laquelle nous vivons, et une société, vous en avez nommé quelques-unes, qui est en crise de différentes manières, et des crises, on peut dire, qui se superposent d'une certaine manière.
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que si nous ne sommes pas du monde, pour reprendre les mots de Saint-Jean, nous vivons quand même dans le monde, et que l'Église, elle est pour le monde parce qu'elle doit conduire vers le royaume des cieux, qui n'est que le monde transformé en royaume des cieux. Et donc, dans les crises qui nous affrontent, ça peut être violent, ça peut être déstabilisant, ça peut être difficile d'avancer, mais le bienfait des crises, c'est que le Seigneur, n'abandonnant jamais son Église, nous sommes invités à les traverser, et en les traversant, à entrer dans un monde qui sera forcément nouveau. Donc ce travail à la fois de lutte et de purification, il est parfois nécessaire, il est parfois âpre, mais le Seigneur, dans son Évangile, est là pour nous aider à les traverser et pour pouvoir imaginer quelque chose de nouveau dans le monde. Une autre manière de vivre.
Puisque vous l'évoquez, Père Sylvain Brison, ce qui peut paraître difficile, on le voit aujourd'hui dans l'Église en France, dans les diocèses, mais plus largement au niveau de l'Église universelle, c'est pour être davantage dans ce monde, pour vivre avec ce monde dans lequel nous sommes. Pour l'Église, l'une des difficultés, et tout le monde réfléchit de ce côté-là, mais on ne sait pas toujours très bien comment s'en sortir, c'est sortir de ses habitudes, puisqu'on a toujours fait comme ça. Alors qu'est-ce qui peut permettre justement de sortir de ses habitudes, de ces manières de faire que l'on vit depuis des dizaines, parfois des siècles ?
Le Seigneur, quand il a fait sa création et quand il a créé l'homme, il a eu une très bonne idée. Il a déposé en lui une capacité incroyable que les hommes possèdent en eux, qui est la capacité d'imagination. Cette imagination qui nous permet à la fois de nous représenter le monde dans lequel nous vivons pour pouvoir le comprendre. Et cette imagination qui est aussi lieu de créativité, qui nous permet d'inventer quelque chose de nouveau dans de l'ancien. Et c'est justement cette force et cette vertu d'imagination que le Seigneur nous demande d'avoir, qui peut incarner l'Évangile d'une manière tout à fait récente et nouvelle, pour nous permettre de transformer avec lui le monde en royaume des cieux. Et donc cette créativité de l'homme, elle est nourrie par les sacrements et par la parole que Dieu nous donne, pour que nous puissions imaginer le monde tel que Dieu le voit et tel que Dieu l'imagine. Voilà. Il y a une phrase de Christian de Chergé que j'aime beaucoup dans son testament spirituel qui dit « Voici que je pourrais plonger mon regard dans celui du Père pour voir avec lui ses enfants de l'islam tels que lui les voit, tout illuminé de la gloire du Christ, fruit de sa passion et de sa résurrection. » Une phrase qui est proprement compliquée à comprendre au plan du dialogue interreligieux, mais qui en même temps montre bien que seule la manière de voir de Dieu est la bonne manière pour la vie du monde. Et que notre effort de conversion vise aussi à convertir notre regard sur le monde et notre capacité d'imaginer le monde tel que Dieu l'imagine et tel que Dieu le veut.
Et pour entrer, on y reviendra sur cette question de l'imagination, pour entrer dans cette dynamique de l'imagination pour voir le monde tel que Dieu le veut. Vous dites aussi qu'il est important de sortir des deux catégories qu'on a en tête, croyant pratiquant et croyant non pratiquant. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi ?
Oui, ces catégories, elles sont venues à l'esprit et ont formé tout le catholicisme que nous avons à partir des années 40 et 50 avec les enquêtes sociologiques du chanoine Boulard et de Lebras qui ont essayé de comprendre comment évoluait le catholicisme français et qui ont diagnostiqué une forme de début d'effondrement dans les années 40 d'un catholicisme très sociologique. Et donc, ils ont classé les catholiques entre ceux qui pratiquaient, ceux qui ne pratiquaient pas et sont apparues les catégories de croyants pratiquants, de croyants non pratiquants ou de non croyants. Sauf que quand on regarde la tradition de l'Église et le droit de l'Église, on s'aperçoit que ce sont des catégories qui n'existent pas, qui sont relativement récentes et nouvelles. En fait, l'Église, dans sa tradition, elle ne connaît que deux catégories. Elle connaît les fidèles, ceux qui suivent le Christ, et les infidèles, ceux qui ne suivent pas le Christ. Et il n'y a pas de jugement a priori moral sur l'un ou sur l'autre, mais c'est simplement de comprendre que la manière de suivre le Christ peut être éminemment différenciée. On peut suivre le Christ dans la prière, on peut suivre le Christ dans l'espérance, on peut suivre le Christ dans la charité. Et donc du coup, on est invité à pouvoir élargir notre regard pour ne pas simplement se contenter de ce que nous avons sous les yeux, mais de concevoir que notre appartenance à l'Église, elle peut être diversifiée, alors que notre action en général se concentre sur la portion congrue de ce que nous avons sous les yeux. Donc c'est une invitation aussi à l'Église de comprendre qu'elle n'est pas aussi petite qu'elle ne pourrait l'être, si elle accepte de comprendre que la suite du Christ peut prendre de multiples formes et qu'elle s'engage dans ces multiples formes.
Sur RCF, suite de votre émission Une fois pour tous avec le père Sylvain Brison, professeur de théologie dogmatique à la Cato de Paris. Ces dernières années, ça bouge du côté des paroisses, avec par exemple des regroupements de clochers. Et si les paroisses s'agrandissent au plan géographique, elles demeurent la référence dans la vie des diocèses, des églises locales. Quel projet pour les paroisses ? Écoutez la réponse du père Sylvain Brison.
La paroisse territoriale, elle n'a d'intérêt pour l'église que dans la mesure où elle détermine un peuple qui y habite ou qui y vit. Et quand on on détourne son regard des frontières géographiques pour regarder concrètement quelle est la vie des gens qui y habitent et qui y travaillent, à ce moment-là, on se tourne vers des personnes concrètes avec qui quelque chose est possible. La grande difficulté, c'est que souvent, on se contente d'administrer un territoire en se disant qu'il faut couvrir une surface, et ça se fait au détriment des gens qui y habitent. Ou quand on pense aux gens qui y habitent, on va penser aux chrétiens qui y pratiquent et qui veulent y pratiquer, mais pas forcément aux gens qui sont là et qui sont en attente ou en ignorance de Dieu. Donc, du coup, la question de la paroisse, on est invité à l'imaginer non plus comme un espace, mais plutôt comme un peuple, en essayant de mettre en œuvre des moyens de se rencontrer, des moyens de vivre le salut que Dieu nous demande, auquel Dieu nous appelle, de le vivre ensemble.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement, imaginer la paroisse d'abord comme un peuple plutôt qu'un territoire ?
Ça veut dire qu'avant de se préoccuper de savoir, je vais être un petit peu direct, s'il y a des messes qui sont célébrées dans toutes les églises territoriales de la paroisse, on arrive à rejoindre les personnes qui y vivent dans les lieux dans lesquels ils vivent. Et qu'on n'attend pas simplement de faire d'administrer des bâtiments et de gérer ou de liquider une entreprise qui serait en fin de course, mais qu'on se demande comment est-ce qu'on vit avec des gens concrètement, que l'on croise en allant acheter sa baguette de pain, que l'on croise en allant au cinéma ensemble, ou que l'on croise en allant travailler. Voilà. Et que là, il y a une urgence à pouvoir annoncer le message du Christ, alors pas forcément de manière péremptoire et totalement impérative, mais de pouvoir commencer à vivre quelque chose de différent qui donne aux gens l'envie de venir vivre ça, parce que ça porte le bonheur.
Et en disant ça, vous rejoignez d'une certaine manière le pape François quand il parle de l'Église en sortie. C'est sans doute ça aussi l'un des défis auxquels sont confrontés les chrétiens sur ces territoires, dans les diocèses ?
Oui, parce que quand le pape François parle d'une église en sortie, il entend dire de manière assez directe aux chrétiens que s'ils se contentent de vivre entre eux dans le petit nombre qu'ils sont, ils vont finir par mourir et que probablement Dieu veut la mort de cette forme d'église et que l'église ne sera vraiment l'église que si elle est toujours en avant de ceux qui ne la connaissent pas pour pouvoir annoncer Jésus-Christ. Donc du coup, une église en sortie, c'est une église qui s'attache à avoir une dimension missionnaire qui est toujours en acte et toujours en action, et pas seulement de vouloir entretenir un patrimoine, qu'il soit matériel ou culturel, mais que l'on veuille simplement se contenter de ça. Voilà, celui qui vit sur ses réserves finira par les épuiser, alors que celui qui va de l'avant pour pouvoir annoncer les richesses de Dieu ne fera que les trouver.
C'est très beau ce que vous dites, mais on voit en même temps que, bien, sur le terrain, c'est parfois difficile de passer à autre chose, peut-être parce que on est du petit nombre, peut-être parce que concrètement on vieillit, peut-être parce que, bien, on a tendance à se retrouver entre soi. Voilà, c'est difficile sur le terrain.
Oui, c'est difficile. En même temps, Jésus a jamais dit que ce serait facile. Donc là, il faut qu'on soit d'accord sur les termes. Après, la question du petit nombre, elle peut être vécue comme quelque chose de compliqué parce qu'on pourrait se sentir écrasé par une majorité qui nous ignore. Mais en même temps, dans la société dans laquelle on vit, la minorité, être d'une minorité, c'est une situation assez confortable parce qu'on est dans une société qui exalte les minorités. Donc si on prend le côté positif de se dire on est une minorité, c'est-à-dire qu'on est libre de vivre quelque chose de radicalement différent et de radicalement authentique, à ce moment-là, on peut avoir la liberté de pouvoir vivre des choses différentes qui permettent d'être des modèles contrastes avec ce que les gens vivent. Et c'est en vivant différemment qu'on donnera l'envie aux gens de venir nous rejoindre et pas en leur disant qu'ils se trompent et qu'ils devraient faire autrement. Le côté imprécatoire n'a jamais fonctionné. Ce qui transmet l'évangile, c'est une vie radicalement différente où on voit des gens vivre différemment et vivre différemment dans un bonheur réel.
Pour comprendre encore davantage ce que vous nous dites, Père Sylvain Brison, il est important aussi de se rappeler que l'Église n'est pas le royaume. Est-ce que vous voulez nous expliquer ça ?
Oui, l'Église n'est pas le royaume et pourtant elle annonce le royaume et elle va au-devant de lui. On peut dire même qu'elle est peut-être les prémices du royaume, mais en fait l'Église ne vise pas à devenir une Église toujours plus grande, elle vise à ce que le royaume advienne. Et quand le royaume adviendra, à ce moment-là, le royaume sera l'Église, l'Église sera le royaume, on verra bien comment Dieu veut le faire. Mais c'est une réalité assez étonnante qu'on ne mesure pas souvent, c'est que lorsque Jésus prêche l'Évangile en Galilée avant sa résurrection, il annonce le royaume qui vient. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Et lorsque Jésus va ressusciter et monter au ciel auprès de son Père, les disciples qui vont prendre sa suite, on devrait s'attendre à ce qu'il continue d'annoncer le royaume en reprenant la prédication de Jésus. Sauf que les disciples n'annoncent plus le royaume. Les disciples, ils annoncent Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous sommes les témoins. Parce que ils ont vécu ce basculement que nous devons apprendre à vivre nous-mêmes, c'est qu'ils ont compris que ce royaume, c'était Jésus. Et donc, ils annoncent Jésus parce que la vie, selon la vie du Christ, nous fait vivre comme des citoyens d'un royaume qui est en train de lever parmi nous. Et donc, du coup, comprendre cela, c'est comprendre que quand nous commençons à vivre l'évangile entre frères, ce qu'est l'Église, nous mettons en œuvre le royaume. Et donc, on sort d'une vision de l'Église qui serait purement institutionnelle pour comprendre que l'institution de l'Église, elle doit être au service de cette vie évangélique et de cette vie du royaume qui vient.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les chrétiens, les fidèles ont à retrouver justement cette vie évangélique, à encore davantage puiser à la source qu'est l'évangile pour que ça devienne parole de Dieu ?
Ils ont à la retrouver, ou peut-être tout simplement ils ont à la trouver, parce que chaque chrétien doit faire ce chemin de conversion perpétuelle personnelle et communautaire, et en même temps il ne peut le faire que s'il reçoit la parole de Dieu avec ses frères et sœurs pour s'en nourrir. Et donc c'est la confrontation entre le récit du salut que l'Écriture nous donne en accès à travers la mendication de la parole et le récit de notre propre vie personnelle et communautaire, c'est cette confrontation-là qui discrimine et qui passe au crible finalement l'essentiel de notre vie pour nous permettre de dégager quels sont les éléments fondamentaux que l'on doit pouvoir conserver. Et ce travail à partir de la parole de Dieu personnellement et en communauté, il nous est donné comme l'essence d'un moteur pour pouvoir avancer. Et donc il y a une urgence pour les chrétiens à pouvoir retravailler cette relation fondamentale à la parole de Dieu qui les fait vivre pour pouvoir commencer à la vivre concrètement. Et ça, c'est le travail de toute une vie, ce ne sera jamais fini.
Voilà, donc il y a à retrouver cette fréquentation de l'écriture, de la parole, ou à s'y mettre tout simplement. On voit que même ça, c'est parfois difficile. Hein. On voit qu'on veut mettre en place des petites fraternités, se mettre ensemble à lire l'évangile, et puis que c'est difficile.
Oui, c'est difficile, mais après tout, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il suffit de le vouloir et de s'y mettre. Et dans la fidélité à rencontre la parole, le Seigneur donnera ce dont on a besoin pour avancer. Ce qui est souvent difficile, c'est qu'on attend de ces partages-là des choses peut-être qui sont trop ambitieuses ou qui sont à côté de ce que Dieu veut donner. Et c'est ce contraste-là qui nous rend les aspects différents. On veut faire des choses et ça ne donne pas les fruits qu'on en attend. Mais peut-être faut-il faire les choses plus gratuitement, c'est-à-dire en se mettant à l'écoute de la parole, de laisser Dieu lui-même discerner le chemin vers lequel on doit aller. Et ça nécessite une forme de lâcher prise, de confiance et d'espérance dans la parole que parfois nous avons besoin de demander avant de mettre en œuvre.
Et inviter d'autres aussi qui sont plus éloignés à se mettre à l'écoute de cette parole, qu'est-ce que vous en pensez ?
L'avantage de la parole de Dieu, c'est qu'elle est donnée pour tout le monde et qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour pouvoir ouvrir la Bible. Ce qui est important, c'est que la lecture de la Bible ne se fasse pas, que l'on soit chrétien ou non, dans un acte purement isolé, mais qu'elle se fasse dans un partage d'interprétations qui permettent aux uns aux autres de s'enrichir pour avancer. Et le travail de la grâce fera que, à travers ce partage-là, l'écriture cessera d'être qu'une écriture et deviendra une parole qui nous est adressée à chacun.
Sur RCF, dernier volet de votre émission Une fois pour tous avec le Père Sylvain Brison, a-t-on besoin de faire preuve d'imagination sur la manière de vivre et de s'organiser en Église avec les différentes fonctions et ministères, ministères de prêtres, de diacres permanents, et puis aussi les laïcs en responsabilité et les fidèles. Écoutez le Père Sylvain Brison.
Et on vit une Église qui est en profonde transformation, mais en fait, dans l'histoire de l'Église, elle a toujours été en profonde transformation. Ce que le pape François nous invite à vivre, c'est d'acter le fait que la manière dont nous avons l'habitude de vivre doit évoluer. Il n'a pas la prétention de nous dire vers quoi. Il nous laisse le soin, dans une démarche synodale, de pouvoir comprendre ce à quoi Dieu nous appelle. Et c'est ça la richesse de la démarche proposée par le pape. La vraie question, c'est de se dire que la manière dont nous allons vivre doit être le plus conforme à l'évangile du Christ. Et c'est uniquement dans le cas où notre structuration sera conforme à la vie évangélique qu'elle pourra être porteuse de fruits et tenir dans l'avenir. Sinon, elle s'effondrera d'elle-même. Donc le premier travail de la synodalité, C'est un travail de prière et d'action dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que la synodalité n'est pas tout à fait une démocratie. Elle fonctionne sur un principe démocratique, mais elle est d'abord une mise à l'écoute de l'Esprit Saint à travers l'écoute de la parole de nos frères et sœurs. Et ce travail-là, en profondeur, doit nous conduire finalement à comprendre que dans la collaboration de quelques-uns se joue la co-responsabilité de tous les baptisés. Et de ne pas attendre simplement une cléricalisation ou une institutionnalisation de l'Église pour nous permettre de nous mettre en route, mais que chacun puisse trouver à la lumière de l'Évangile ce à quoi Dieu l'appelle. En se gardant à l'esprit la phrase que Jésus dit « Si quelqu'un ne prêche pas contre moi, il est avec moi ». Donc en fait, il faut pouvoir inventer de nouvelles manières de vivre en Église et de pouvoir vivre avec les autres. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que nos frontières de l'Église restent relativement poreuses pour permettre à la fois à l'Église de sortir de l'institution et à la fois aux personnes qui veulent l'intégrer de pouvoir rentrer dans l'Église. Et cette porosité des frontières de l'Église, ben, c'est l'Esprit Saint qui la maintient ouverte et qui nous aide à mieux la percevoir, même si parfois ça peut être assez inconfortable à comprendre et à assumer.
Et là, on voit quand même, je ne sais pas comment exprimer, qu'il y a peut-être à imaginer, à inventer d'autres manières, d'autres types de relations à l'intérieur de l'Église en fonction des différentes fonctions, des différents charismes, et que ça pose question aussi d'une certaine manière aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il faut, il faudra toujours se recentrer sur ce que fait la grâce du baptême lorsqu'elle incorpore quelqu'un au corps du Christ. On a peut-être eu trop l'habitude, dans certaines époques de l'Église, de considérer que le ministère ordonné était une étape supérieure à l'étape baptismale, une plus grande dignité, une plus grande sainteté, ou que sais-je encore, alors que nous savons bien qu'il n'y a pas de plus grande dignité que de celui qui est plongé dans la mort et la résurrection du Christ, c'est-à-dire de celui qui est baptisé. Et donc c'est une invitation à la fois aux baptisés à pouvoir donner aux prêtres, aux diacres et à l'évêque une place particulière dans leur communauté, mais aussi une invitation aux prêtres, aux diacres et aux évêques de comprendre que dans l'exercice du ministère ordonné qui leur est confié, ils ont aussi à accomplir leur sacerdoce baptismal. Et donc de se réapproprier cette grande phrase de saint Augustin, qui pour l'anniversaire de son ordination rappelait aux chrétiens d'Hippone que pour eux il était l'évêque, mais qu'avec eux avant tout il était chrétien. Et je pense que ça c'est un grand défi de l'Église de tous les temps, de permettre à tous les baptisés de pouvoir vivre selon leur vocation, la dignité de leur baptême pour l'annonce de l'Évangile et le salut du monde.
Et ce qui peut permettre d'entrer dans cette dynamique, c'est finalement de se rappeler toujours pour les chrétiens, quelle que soit leur fonction au sein de l'Église, de se rappeler que leur objectif, c'est leur rapport au monde et à ce qui les entoure.
C'est-à-dire que le royaume au monde, il est structurant de l'annonce de l'Évangile. Non pas que le monde va imposer à l'Évangile une manière d'être, mais qu'au contraire, le monde va questionner l'Évangile sur ce dont il a besoin. Si on considère que l'Église est la détentrice de la vérité et qu'en fait elle se forme un bastion qui est fermé sur lui-même, elle va mourir de sa belle mort, alors qu'en fait le Seigneur l'envoie dans le monde et pour le monde pour que cet évangile retentisse dans le monde et soit efficace pour le monde qui en a tant besoin. Donc c'est vraiment une attitude de renoncer à être un bastion de la vérité pour pouvoir aller vivre cette vérité qui est le Christ à la rencontre de ceux qui ne le connaissent pas.
Et pour vivre cette rencontre, permettre à ceux qui ne le connaissent pas de vivre cette rencontre avec le Christ, une vertu proposée aux chrétiens, l'hospitalité.
Oui, l'hospitalité, comme j'aime à le rappeler, et selon la formule du théologien Henri Nouwen, cette vertu qui nous permet de franchir le mur de nos peurs et d'ouvrir la porte à l'étranger avec la certitude que le salut nous viendra sous la forme d'un voyageur égaré. C'est la grande expérience biblique, hein, depuis Abraham au chêne de Mambré jusqu'à Cléophas dans les berges d'Emmaüs. C'est qu'en fait, il faut passer le mur de la peur pour trouver dans la relation authentique à l'autre l'avènement de Dieu qui vient à notre rencontre. Le salut ne nous viendra que de l'extérieur parce qu'il nous viendra du Christ et que le Christ, s'il est dans l'Église, il est aussi dans le monde à travers l'action de l'Esprit en attente de tous ceux et de celles qu'il veut sauver. Et que ce salut, nous ne pouvons pas le vivre que pour nous, il faut le vivre avec tous les autres. Et c'est précisément ce que l'Évangile nous incite à faire au jour le jour.
Donc on peut dire que pour les chrétiens, c'est toujours le défi d'aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas chrétiens. On a dit fidèle, infidèle, sans vouloir caricaturer. C'est toujours ce défi. Voilà, parce que le but, c'est finalement toujours d'annoncer l'Évangile dans ce monde. Et c'est ça qui est quand même compliqué. C'est pour ça que l'hospitalité peut permettre justement de vivre ce rapport différemment.
L'hospitalité, elle permet, à mon sens, de vivre humainement notre vocation chrétienne. Parce qu'elle nous permet d'éprouver dans notre humanité ce qu'il y a de plus fondamental dans notre relation et de ramener cette dimension chrétienne de l'annonce du salut au fait que c'est une annonce qui est faite pour l'humanité et dans l'humanité. On pourrait avoir tendance, quand on fait un petit peu d'études de théologie ou quand on travaille sur sa foi, que finalement on en sait plus que les autres ou qu'on conceptualise un peu trop la vérité en oubliant que cette vérité elle est d'abord existentielle, elle est d'abord à vivre plutôt qu'à comprendre. Et c'est en vivant qu'on comprend et c'est en comprenant qu'on va mieux vivre. Et donc du coup l'hospitalité elle nous permet dans des actes très concrets de notre existence de nous rappeler que le Verbe s'est fait chair et qu'il a vécu parmi nous et que c'est dans que l'évangile est fait pour l'humanité afin que l'humanité devienne vraiment le lieu où Dieu puisse vivre en parfaite communion avec nous.
Pour le dire d'une manière un peu concrète, on peut dire que entrer dans cette dynamique, ça va permettre à ceux qui sont les responsables des communautés, les acteurs pastoraux, comme on les appelle, laïcs et prêtres, eh bien, d'entrer dans une autre perspective, d'arrêter de se préoccuper, enfin, on peut dire du quotidien, de l'immobilier, du nombre de messes, et donc de chercher autre chose, de passer à autre chose, de laisser l'imagination au pouvoir, pour reprendre votre expression du début de cet entretien.
Oui, ça permet surtout de relativiser les questions qui vont être fondamentales et importantes en mettant en second plan, et pas forcément de manière seconde, les choses qui sont relatives. Mais ça doit nous inviter à penser que qu'est-ce que nous voulons vivre. Et si nous voulons vraiment vivre des choses qui sont de l'ordre de l'évangile et de l'annonce du salut, à ce moment-là, Dieu donnera les moyens qu'elles soient vécues. C'est se rappeler que le Christ, s'il n'a jamais dit que ce serait facile, il a toujours dit qu'il serait présent avec nous et qu'il y a une confiance absolue si nous voulons vivre l'évangile. Nous ne savons peut-être pas comment, nous ne savons peut-être pas dans quelle manière, avec quel argent ou dans quelle institution nous pourrons le vivre dans l'avenir, mais si nous voulons vivre l'évangile avec des hommes et des femmes de notre temps, il y aura toujours les moyens de pouvoir le vivre parce que le Seigneur sera là pour le vivre avec nous. Donc vivre sans l'évangile est une certitude, la forme institutionnelle dans laquelle cet évangile sera vécu, elle reste sans doute encore à inventer.
Avec aussi sans doute le défi, parce qu'il y a les quelques-uns, ceux qui sont les acteurs pastoraux dans les équipes pastorales par exemple, et puis il y a aussi comment embarquer le tous dans cette dynamique d'une certaine manière.
Mais moi je crois qu'on embarque le tous dans la dynamique quand la communauté chrétienne elle donne envie de la rejoindre, parce que ceux qui sont à l'extérieur ont le désir de vivre la même chose que ce que les chrétiens vivent. Tant que la communauté chrétienne elle se conçoit de manière isolationniste, elle n'attirera personne. Tant que la communauté chrétienne se considérera comme au-dessus des autres communautés, elle n'attirera personne. Tant que la communauté chrétienne ne vivra pas des choses fortes et bénéfiques pour elle, elle n'attirera personne. L'évangile, il ne se propage pas, quand on regarde les actes des apôtres, par de grands discours dans lesquels on dit aux gens « vous devez croire, sinon vous ne serez pas sauvés ». L'évangile, il se communique de personne à personne. Philippe qui trouve Nathanaël, Nathanaël qui trouve Simon, Paul qui trouve Apollos, etc. C'est-à-dire que c'est un évangile qui se transmet de personne à personne en montrant des manières de vivre qui ont changé la vie des gens. Et c'est en voyant des vies transformées, des vies réconciliées et des vies pacifiées par la parole que d'autres personnes voudront pouvoir vivre la même chose. Et donc du coup, il faut le grand secret de l'évangélisation, c'est qu'il faut commencer par vivre. Et si on vit l'évangile, à ce moment-là, l'évangile il est communicant par lui-même. Si on n'est pas communicant alors qu'on croit vivre l'évangile, c'est peut-être qu'on ne vit pas suffisamment l'évangile.
Merci Sylvain Brisson, merci beaucoup.